une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'éco en prépa à Sarcelles, et cette semaine, je laisse la parole à Robin Lemoine, journaliste indépendant, spécialisé en sciences économiques et sociales. Salut Robin.
Salut Emmanuel.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'Europe, de volatilité et de Nicolas Sarkozy. Encore lui.
Exactement. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 2020, fin octobre. Pierre Larrouturoux, député européen socialiste, entamait une grève de la faim. À Bruxelles, au milieu d'un Parlement européen vide à cause de la deuxième vague de Covid, lui avait pris ses quartiers dans le bâtiment et dormait dans son bureau. Son objectif, faire pression sur l'Europe pour qu'elle mette en place une taxation sur les transactions financières.
Je l'aurai un jour. Je l'aurai.
Cette taxe, on l'appelle aussi TTF. Selon lui, cette taxe permettrait d'ajouter environ 60 milliards dans les poches des États européens.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour le climat et pour l'emploi, alors que les marchés financiers sont à un niveau jamais vu et qu'avec juste une petite taxe sur la spéculation, on aurait chaque année 60 milliards de plus pour les hôpitaux, pour la santé, pour la recherche, pour le climat et pour l'emploi.
18 jours plus tard, sur ordre du médecin et après avoir perdu une dizaine de kilos, Pierre Larrouturoux arrête sa grève de la faim. Pour un résultat nul ? Pas tout à fait. Car même si tout n'est pas uniquement grâce à lui, les discussions au sein des instances de l'UE sur cette taxe commencent à devenir sérieuses. Certains, pas forcément de gauche, commencent même à la défendre. Mais alors, quelle taxe sur les transactions financières ? Car vous verrez dans cet épisode qu'il en existe plusieurs formes. Combien cela pourrait rapporter ? Cette taxe peut-elle permettre de limiter la spéculation sur les marchés financiers ? Quels sont les risques sur la liquidité et la volatilité des marchés ? Doit-on taxer davantage les échanges financiers ?
Bon, dans un premier temps, Robin, peux-tu expliquer simplement ce que ça veut dire taxer les transactions financières ?
Alors, il existe différentes taxes. On verra ça tout au long de cet épisode. Vous le savez sûrement, sur les marchés financiers, on s'échange des produits. Cela peut être des actions, des obligations ou encore des devises. Il y a donc des acheteurs et des vendeurs. L'idée est donc de taxer soit celui qui vend, soit celui qui achète, soit les deux. Mais alors, on taxe qui et surtout quoi ? Tous les titres et produits financiers ou seulement certains ? Et on taxe quand ? À la vente, à l'achat, tout au long de la journée ou seulement au moment de la fermeture des marchés ? C'est là que les différences se font. Car des taxes sur les transactions financières, il en existe à travers le monde. Mais elles sont toutes différentes. Et le diable se cache parfois dans les détails.
Ok, et ça vient d'où cette idée de taxer les transactions financières ?
Eh bien, ça vient de très loin. Certains économistes s'accordent pour remonter au XVIIe siècle en Grande-Bretagne. J'en ai discuté avec Gunther Cappel-Blancard. Il est professeur d'économie à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et a beaucoup travaillé sur ce sujet.
La taxe aux transactions financières a été créée au moins au XVIIe siècle. En Grande-Bretagne, c'est 1694, c'est le stamp duty. 1694, c'est le plus vieil impôt encore en vigueur aujourd'hui au Royaume-Uni. On pourrait le traduire par un droit de timbre. Quand vous réalisez une transaction, il faut que cette transaction, elle soit, légitimée hein, par les autorités. Pour vraiment être sûr que vous êtes propriétaire de l'action, bien, vous avez ce timbre qui enregistre la transaction. C'est valable pour les transactions sur actions, mais en fait, c'est valable pour beaucoup de transactions, hein, y compris des transactions immobilières. Donc, au départ, hein, ce droit de timbre, il est instauré, donc je disais, au Royaume-Uni, sur des titres qui sont alors des titres papier. Dans les années 80, ces titres papier sont dématérialisés. Et donc, le stamp duty en Bretagne, il a un petit peu évolué pour s'adapter.
Selon plusieurs analyses, le stamp duty est même le plus vieil impôt toujours en vigueur au Royaume-Uni. Promis, on analysera cet impôt, mais un peu plus tard. Ensuite, la TTF, c'est une idée remise au goût du jour au lendemain de la crise de 1929 par le célèbre économiste Keynes.
Il est encore plus connu que Macron.
Lui voulait taxer les transactions sur actions. L'idée est ensuite reprise en 1972 par un de ses disciples, l'économiste James Tobin, mais dans un but différent. Lui voulait frapper les marchés d'échange en imposant chaque opération d'achat et de vente de devises à 0,1%. Objectif, éviter les mouvements de trop forte ampleur qui pourraient déstabiliser les taux de change. Après être tombé un peu dans l'oubli, la création d'une association remet cette taxe dans le débat public. Son nom, ATTAC, pour l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Eux souhaitaient taxer l'ensemble des transactions financières, change, actions, obligations, options, produits dérivés, etc., à 0,1%.
Je dirais que le mouvement principal au monde, hein, c'est vraiment ATTAC qui a remis sur le devant de la scène ce type de taxe. Donc, ils ont un rôle important. Ils ont un rôle important, mais aussi un peu à double tranchant, parce que cette taxe a de fait été à tort assimilé à quelque chose d'un peu utopique, d'altermondialiste.
L'un des tournants de ce projet arrive en 2013. Cette année, la Commission européenne propose à son tour une TTF, 0,1% sur les actions et obligations et 0,01% sur les produits dérivés. Une réforme très ambitieuse, explique notre invité. Tellement ambitieuse qu'elle reste encore aujourd'hui au point mort.
C'est long là, non ?
Attends. Avant d'analyser l'efficacité et les risques de ces taxes, peux-tu simplement nous donner leurs objectifs ?
Alors, selon les défenseurs de cette taxe, l'objectif est double. Tout d'abord, comme vous pouvez vous en douter, l'idée est de faire entrer des sous dans les caisses des États. Par exemple, l'impôt européen permettrait de collecter entre 50 et 60 milliards d'euros par an à l'échelle des 27 pays membres. Cela peut servir à plusieurs choses, justice sociale, transition écologique ou encore aide au développement. Mais ce n'est pas tout. Cela pourrait permettre de lutter contre la spéculation à court terme et contenir ce qu'on appelle le trading haute fréquence.
High frequency trading, transaction haute fréquence, c'est des allers-retours, des achats et des ventes qui sont réalisés dans des laps de temps très très courts, des laps de temps qui frôle la nanoseconde. Je ne sais pas si vous réalisez, mais une nanoseconde, c'est tout petit. Hein. On dit que dans un clignement d'œil, quand vous faites un clin d'œil, hein, il se passe, ça dure 1 million de nanosecondes, pour vous donner un ordre d'idée de ce que peut représenter une nanoseconde. Et bien, en quelques nanosecondes, vous avez maintenant des transactions sur les marchés financiers d'achat et de... Alors, ça génère des profits extrêmement faibles, transactions, mais au total, évidemment, ça représente des masses importantes. Et une taxe pourrait permettre de lutter contre ça, en théorie.
Des activités peu utiles à l'économie réelle, qui peuvent conduire à une volatilité plus élevée et qui renforcent les possibilités de crise financière. L'idée est donc, grâce à une taxe, de réduire les rentes de ces activités non productives, dont l'utilité sociale est plus que douteuse. En gros, si vous mettez en place une taxe à la vente ou à l'achat d'un produit financier, cela pourrait permettre de réduire l'intérêt de vendre et d'acheter rapidement, et donc de limiter la spéculation. Je précise encore une fois que le montant des recettes et son efficacité à lutter contre la spéculation dépendent grandement de la manière dont cette taxe est mise en place. On verra ça juste après.
D'accord, donc il y a bien des risques.
Évidemment. Tout d'abord, certains craignent que cette taxe entraîne une possible délocalisation de l'activité financière et que, dans le cas d'une taxe UE, les places boursières européennes soient pénalisées. Ensuite, certains craignent que cela ne frappe les arbitrages qui génèrent de petites plus-values et que cela mette en péril une partie du financement de l'économie européenne. Et puis, allant dans le même sens, les opposants à la TTF font valoir qu'elle serait contre-productive, car cette taxe contribuerait à augmenter la volatilité en diminuant la liquidité des marchés visés. Et ça peut être un problème.
L'illiquidité, ça a un coût. Lorsque, par exemple, vous voulez vendre un titre, s'il y a trop peu de transactions, si le marché est trop peu liquide, il va falloir que vous acceptiez une forte baisse des prix pour pouvoir trouver un acheteur. On parle de prime de liquidité. Et bien sûr, réciproquement, lorsque vous voulez acheter, si le marché est peu liquide, il faut attendre longtemps, il faut trouver une contrepartie, tout ça représente un coût. Donc, effectivement, quand les marchés sont très, très peu liquides, c'est un coût qui peut être élevé. Et puis, lorsque les marchés sont peu liquides, c'est moins souple, ce qui peut créer de la volatilité, ce qui peut créer des sauts dans les prix. Parce qu'il y a trop peu de transactions, on peut voir les prix qui évoluent de manière plus brutale. Donc, un marché trop peu liquide, c'est effectivement néfaste.
En gros, la taxe réduirait les volumes de transactions, ce qui rendrait les marchés moins liquides, les prix des transactions seraient beaucoup moins stables et donc plus volatiles.
Ok, je comprends. Mais déjà, est-ce que c'est si grave si les marchés financiers perdent légèrement en liquidité ?
Alors, pas vraiment, selon l'économiste. Notamment parce que nous serions dans une situation de surliquidité des marchés financiers. Dans un rapport pour l'autorité des marchés financiers, il rappelle que, en 40 ans, au niveau mondial, le rapport du montant total des transactions boursières sur le PIB est passé de 5% à une fourchette comprise entre 125% et 180%. En gros, on échange de plus en plus et de plus en plus vite. Donc des acheteurs et des vendeurs, et il y en a presque trop. Même chose si l'on regarde le montant total des transactions boursières rapporté à la capitalisation boursière. Eh bien, sur la même période, le taux de rotation des actions est passé de 25% à une fourchette comprise entre 150% et 300%. Et cela continue de s'accélérer.
en théorie, un argument, c'est de dire qu'un marché trop peu liquide, c'est un marché qui crée de la volatilité. Mais aujourd'hui, la crainte, c'est pas d'avoir des marchés trop peu liquides. Les marchés sont extrêmement liquides aujourd'hui. Et une taxe sur les transactions financières ne conduirait pas à un assèchement complet des marchés.
Et existe-t-il des exemples empiriques qui permettent de connaître les conséquences d'une TTF ?
Alors oui, prenons trois exemples. Le Royaume-Uni, la Suède et la France. Alors, le Royaume-Uni, c'est le fameux stamp duty. Chez eux, le Trésor britannique prélève une taxe de 0,5% sur les achats d'actions de sociétés britanniques. Petite précision, les émissions d'actions ne sont pas taxées et les autres produits financiers non plus. Et depuis 2014, les actions des petites entreprises à fort potentiel de croissance sont également exemptées. Cette taxe doit être payée quelle que soit la nationalité ou la résidence des contreparties. C'est-à-dire que si un investisseur allemand achète une action à une entreprise anglaise, il devra payer cette taxe. Ainsi, ce dispositif est relativement difficile à contourner, ce qui limite l'évasion fiscale. Cet ETF rapporte à l'État entre 2,5 et 4 milliards de livres sterling chaque année. Autre chiffre, les coûts de collecte, en gros d'organisation, sont très modestes. C'est environ 0,02 pence par livre sterling collecté, soit un coût 75 fois moins élevé que pour l'impôt sur le revenu. De plus, cette taxe a un argument populaire de taille. Gunther Cappel-Blancard.
Au Royaume-Uni, il y avait une étude qui avait été faite qui montrait que 50% de la taxe au Royaume-Uni était payée par des investisseurs étrangers, ce qui en fait une taxe assez intéressante hein, pour un pays, pour un gouvernement. Il n'y a pas d'autre exemple. Évidemment, la taxe sur le revenu, la TVA, essentiellement les résidents qui la payent. Pas la taxe sur les transactions financières. Donc 50% pour le Royaume-Uni, et c'est un peu l'estimation qu'on a. On n'a pas l'équivalent en France, mais il n'y a pas de raison de penser qu'on est... C'est différent.
Bon alors, quelles sont les conséquences ? À l'évidence, cette taxe qui date du XVIIe siècle n'a pas empêché le développement de la place financière de Londres et celle-ci n'a pas eu d'impact sur la volatilité des actions.
Passons à la Suède. Je crois que ça a moins bien fonctionné là-bas. Je me trompe ?
Non, tu as raison. Mais ça, pour des raisons bien particulières. En 1984, la Suède décide d'introduire une taxe de 0,5% sur l'achat ou la vente d'actions. Elle sera abolie 7 ans plus tard, en 1991. Un échec total. En cause, les volumes de transactions à la bourse de Stockholm ont diminué après 1986 au profit de la City de Londres. Alors, pourquoi ?
C'est important de prendre en compte le cas de la Suède qui met en place une taxe sur les transactions financières dans les années 80 parce que c'est l'argument qui est souvent mis en avant par les détracteurs de la TTF. Cette taxe, elle a un design très particulier en fait qui fonctionne pas bien du tout. Cette taxe, elle est prélevée sur les intermédiaires financiers suédois. C'est comme ça qu'elle est designée. Et donc, que font les investisseurs suédois ? Plutôt que d'opérer via des intermédiaires suédois, ils demandent à des intermédiaires britanniques de réaliser les transactions. Et donc, la taxe, elle est extrêmement facilement contournée. Et au bout de quelques années, elle est abolie, c'est un échec complet. La taxe en France, comme le stamp duty britannique et comme le projet européen, est très différente dans son design. Vous devez payer cette taxe, quel que soit l'intermédiaire que vous utilisez, quel que soit le marché sur lequel vous traitez. Ce qui définit l'assiette de la taxe, c'est la nationalité de l'entreprise et pas la nationalité ni de l'intermédiaire, ni de ceux qui achètent ou qui vendent, ni du marché, c'est la nationalité de l'entreprise. Et donc, ça donne beaucoup plus de force juridique.
Échec donc. Mais petite précision, les transactions ont migré d'une place à l'autre, certes, mais il n'y a pas eu d'effet significatif sur la volatilité des actions suédoises. Bon, vous avez beaucoup entendu parler de la France dans les mots de notre invité. Donc on y va. Car vous ne le savez peut-être pas, mais notre pays a lui aussi sa TTF. Il y a d'abord eu l'impôt sur les bourses, créé en 1893. L'année précédant son abrogation, en 2007, le taux était de 0,3% pour les transactions en deçà de 153 000 euros et de 0,15% au-delà. Mais même problème qu'en Suède, cet impôt s'appliquait aux opérations effectuées par des intermédiaires financiers établis en France. Ainsi, avec la libéralisation des capitaux, cet impôt devient facilement contournable. Les recettes étaient donc plutôt faible. Pour la remplacer, 4 ans plus tard, en janvier 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy,
bonjour,
l'Assemblée nationale vote un projet de loi instaurant une nouvelle taxe sur les transactions financières.
Et quels sont les détails de cette TTF à la française ?
Cette taxe vise les échanges d'actions ou assimilés, mais seulement celles des très grandes entreprises situées en France et dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Depuis 2017, ces transactions sur les actions sont taxées à hauteur de 0,3%. Mais cette taxe fait grand débat. D'un côté parce que c'est mal vu par le monde financier et de l'autre parce que cette taxe est minime. Gunther Cappel-Blancard.
Quand on parle de la TTF française, elle est critiquée de toutes parts. Elle est critiquée par les banques, évidemment, on s'y attend, par les économistes les plus libéraux, mais elle aussi, donc plutôt à droite, plutôt conservateur si vous voulez, hein, pour simplifier, mais elle est aussi critiquée par ceux dont on pense qu'ils pourraient supporter cette taxe, parce qu'elle est jamais assez ambitieuse. On est vraiment au milieu du gué avec la taxe française. Elle ne concerne déjà que les actions. Or, il y a beaucoup, beaucoup de titres autres que des actions. Elle concerne que des actions, ça c'est le premier point. Mais surtout, et ça c'est vraiment le point le plus important, elle ne porte juridiquement que sur les transferts de propriété et non pas les transactions. Quelle est la différence entre les deux? Une transaction, c'est lorsque vous avez un achat et une vente. Un transfert de propriété, juridiquement, c'est défini quand le titre est vraiment change de propriétaire, ce qui est fait en fin de journée, à la clôture de la séance de bourse. De fait, toutes les transactions qui sont réalisées au sein d'une journée ne sont pas concernées. Si je vous achète un titre et que je le revends la minute d'après, je ne paierai pas la taxe. Donc, de fait, cette taxe sur les transactions financières, c'est une taxe sur les transferts de propriété et elle exclut énormément de transactions. On l'a dit, elle exclut tout ce qui n'est pas action déjà. Et même au sein des actions, dans le cadre d'un travail que j'avais réalisé pour le conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers, j'évaluais que 80% peut-être des transactions étaient exemptées. Et donc, on taxe, en fait, très peu. L'assiette, elle est toute petite. C'est la raison pour laquelle les revenus sont beaucoup moins importants que les estimations qui pouvaient circuler à l'époque.
Aujourd'hui, la TTF rapporte entre 1,5 et 2 milliards à la France. Des recettes qui grandissent, mais pour une raison assez simple.
Tout simplement parce que les transactions sont plus nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Le CAC 40 a battu un record, a battu des records au cours des dernières semaines. Donc, il y a une explosion des transactions.
À savoir que 75% des recettes de cette taxe sont allouées au financement de l'aide au développement. Mais alors, une question. Cette taxe a-t-elle dégradé les marchés financiers, comme le disent les plus sceptiques? Eh bien non.
Il y a à peu près 5-6 études indépendantes qui ont été réalisées par des chercheurs français, universitaires, mais aussi étrangers. Donc ça a été fait de manière très indépendante. Les résultats convergent. Les méthodes sont plus ou moins les mêmes et les résultats convergent. Il y a une petite baisse des volumes, 10%. Peut-être 20%, mais c'est très faible, cette baisse. En revanche, il n'y a aucun impact sur la liquidité, c'est-à-dire la capacité à acheter, vendre, les transactions n'ont pas augmenté, et il n'y a aucun impact non plus sur la volatilité, ou sur les prises de position spéculatives, si vous voulez. Donc l'impact, il est juste sur le nombre de titres échangés, sans qu'il y ait d'autres impacts.
Alors, la baisse de volume de transactions peut sembler significative, de -10 à -20% en 2012. Mais, cette baisse doit être mise en perspective avec l'explosion des transactions qui ont été multipliées par 25 en France ces 25 dernières années. Rien que sur 2014 et 2015, l'augmentation des transactions sur les actions françaises a été de 24 et 29%. Ainsi, la TTF française ne semble pas limiter la croissance des marchés financiers. Au pire, comme le dit l'économiste, elle ralentit cet essor de quelques trimestres. Ce qui est sûr, c'est que cela n'a eu aucun impact sur la liquidité et la volatilité des marchés d'actions.
Alors, est-ce qu'il y a eu un impact sur la spéculation?
Pas vraiment, non. Cette taxe, tout comme les autres TTF, n'a pas réduit la spéculation sur les marchés visés. Comme l'explique l'économiste dans son étude pour l'AMF, les deux objectifs, augmenter les recettes plus lutter contre la spéculation, peuvent être contradictoires. Car pour vraiment limiter la spéculation, il faudrait des taux bien plus élevés pour davantage de produits financiers visés et des règles bien plus strictes. Et si le but était atteint, alors mécaniquement, les recettes fiscales seraient faibles puisqu'il y aurait moins de transactions. À moins, bien sûr, de recourir à d'autres instruments.
Pour conclure, Robin, on en est où de la proposition de la Commission européenne?
Vous vous souvenez? Au début de cet épisode, je disais que l'idée d'une TTF européenne prenait de l'essor. Eh bien, le 16 février, le Parlement européen, y compris certains élus de droite, a voté une résolution qui demande que la taxe sur les transactions financières soit enfin créée avant la fin du mois de juin 2023. Dans un mois donc. Si ce très court délai risque d'être difficile à tenir, c'est parce que certains pays, et notamment la France, s'y opposent. Alors rappelons rapidement à quoi ressemble la proposition de la Commission européenne. En 2013, celle-ci prévoyait une taxe de 0,1% sur les transactions sur actions et obligations et de 0,01% sur les transactions sur produits dérivés. Selon la proposition de la Commission européenne, la taxe s'appliquerait dès lors qu'au moins un des participants à la transaction est établi dans l'un des pays qui l'ont adopté, ou dès lors que la transaction implique un instrument financier émis dans l'un de ces pays. À ce stade, seul le marché d'échange ne serait pas taxé.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je crois que dans un premier temps, on pourrait appliquer donc le stamp duty britannique ou la taxe française à davantage de pays. Ça, c'est vraiment de l'ordre du faisable. C'est même assez incroyable qu'on ne l'ait pas déjà fait. On le sait tous, on a des défis à relever. La lutte contre le changement climatique, l'immigration internationale, l'aide au développement. Hein. Donc, on va avoir besoin d'argent au niveau supranational. Et la TTF pourrait être une source de financement très intéressante. Ne serait-ce qu'en élargissant ce qui existe déjà pour certains pays. Après, si on veut faire mieux, eh bien, si on veut faire mieux, je crois qu'il faut introduire d'autres dispositifs et qui seraient faisables. Puis après, on peut envisager les produits dérivés, on peut envisager plein de choses. Mais je crois qu'il faut aller pas à pas. Pas la révolution, comme le propose la Commission européenne, mais pas à pas. Pour montrer la faisabilité de chacun des dispositifs, pour montrer que finalement, c'est pas un drame.
Alors, cette proposition aura-t-elle des conséquences sur la spéculation, la liquidité ou la volatilité des marchés? Les places européennes seront-elles désertées par les investisseurs? Difficile à dire. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle permettrait aux États d'empocher des recettes importantes. Histoire d'investir dans l'avenir, la justice sociale, le climat ou encore dans l'aide aux pays du Sud.
Merci Robin pour cet épisode. Si vous aussi vous l'avez aimé, et Splash de manière générale, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify, ça nous aide à être mieux référencés. À lundi prochain.
Splash est un podcast de nouvelles écoutes, écrit et animé par moi, Robin Lemoine, en compagnie d'Emmanuel Martin. Prise de son, montage et mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Réalisé par Adrien Beccaria et Mathilde Jonin, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux, chargée de production Mathilde Jonin avec l'aide de Neila Akouzi.